Chapitre 19. La pourpre et l'azur lumineux s'étendent en nappes sur les dalles et sur les vieux piliers noircis, les orpales de l'autel s'allument au reflet du soleil et des cierges, l'encens monte dans un rayon couleur d'émeraude. Les orgues jouent. C'est un chant très doux qui berce Bruno, qui endort sa souffrance. Il est à Sainte-Cécile, agenouillé à sa place habituelle, et suit la messe dans son vieux livre à ferrure d'acier qui vient de Joseph Ferrières, l'aïeul dont le nom figure en bonne place dans les annales de la chouannerie. C'est Jacques qui officie. Le vieux curé, dans sa stalle, est tout enveloppé d'une lueur orangée qui teint ses cheveux blancs. La robe rouge des enfants de chœur met une note vive dans la tonalité adoucie des couleurs de vitrail et des orphanés. Voilà le petit Armand qui s'avance, son encensoir à la main. Il est le préféré de Bruno parmi tous les enfants du patronage. Le ciel est dans ses yeux purs et son âme a gardé la blancheur baptismale. Le prêtre s'est détourné. Bruno voit l'énergique visage sérieux qui se penche un peu, tandis que la main attentive met les grains d'encens sur les braises ardentes. La fumée odorante s'élève, Bruno cherche à l'aspirer. Mais non, ce parfum n'est pas celui de l'encens, c'est l'autre, celui qu'il arbore maintenant, ce parfum d'ambre et de violette qu'il a si longtemps grisé. Le rêve était fini, il sentait près de lui la présence de Floriane. À regret, il souleva ses paupières lourdes. Non, il n'était pas à Sainte-Cécile. Devant lui se dressait l'armoire flamande de sa chambre. Il se trouvait sur son lit, très malade à la suite d'un refroidissement contracté au retour de Dinard. Ce matin, il avait deviné, à la façon dont le médecin l'examinait, qu'il était gravement atteint. L'oppression le suffoquait, la fièvre le brûlait. Mais ses souffrances physiques n'étaient rien près du tourment de son âme. Il voyait nettement toutes les fautes de sa vie et frémissait d'épouvante. Ses doigts s'agitèrent, se crispèrent sur le drap. « As-tu besoin de quelque chose, mon ami ?» Floriane se penchait vers lui, attentive et inquiète. « Non, merci. » Elle insista. « Dis-moi ce que tu désires, mon chéri. » Les yeux bleus, qui luisaient de fièvre, se fixèrent sur elle. « Je ne désire qu'une chose, voir ma mère. Écris-lui que je suis très mal et que je la demande. » La jeune femme tressaillit. « Mais non, tu n'es pas si mal. Il est inutile de la déranger. »« Si, je veux la voir avant de mourir. »« Mourir ? À quoi songes-tu ? Mais non, tu vivras, mon Bruno adoré. Je te garderai, je te défendrai contre la mort, car je t'aime toujours, moi. » Elle se courbait vers lui, l'entourait de ses bras. Mais Bruno la repoussa. Sa voix oppressée murmura « Non, non, plus de ces joies mensongères. Comment juge cela à l'heure où je suis ?» Une suffocation vint l'interrompre. Floriane appela la garde-malade. C'était une religieuse, Bruno l'avait voulu. Quand la crise fut passée, elle s'éloigna sur un signe du malade. Floriane resta debout près du lit, tenant la main de son mari. Celui-ci demeura un long moment silencieux, les yeux clos. Par la pensée, il était à Sarger, il était près de tous les siens, et il se trouvait bien. Les paupières se soulevèrent. « As-tu télégraphié ?»« À qui, mon ami chéri ?»« Mais à ma mère. » »« Tu le veux absolument ?»« Oui, je le veux. Tu vas le faire ?» Elle ne répondit pas aussitôt. Bruno crut qu'elle allait refuser. Il dit âprement « Qu'as-tu à craindre maintenant? Je vais mourir, tu ne mourras plus. Je voudrais avoir ta pensée jusqu'au dernier moment. » Il détourna son regard des yeux où brûlait toujours cette tendresse qu'il avait si longtemps enchaînée. « Ma pensée, elle n'est déjà plus à toi. Elle est à mon passé, à ma mère. Je te dis que tu n'as plus rien à perdre, Floriane. » Elle se redressa, s'écarta, en disant d'une voix qui tremblait « C'est bien, je vais télégraphier. » La nuit avait été longue, dans l'interminable insomnie coupée d'étouffement, traversée d'angoissantes réflexions. Bruno, cependant, puisait un réconfort dans cette pensée. Elle va venir, demain je la verrai. » Il lui semblait que tout son effroi, toutes ses souffrances physiques s'évanouiraient quand elle serait là et qu'il pourrait se réfugier dans ses bras comme autrefois. Au matin, il s'assoupit. Quand il ouvrit les yeux, il vit au pied de son lit sa mère et le curé de Sainte-Cécile. Il balbutia joyeusement « Maman, monsieur le curé, je suis sauvé !» Madame Ferrière, refoulant ses larmes, prit entre ses bras le buste amaigri, appuya contre sa poitrine la tête fine qui se laissait aller et baisa le jeune visage au teint terreux, aux yeux là enfoncés dans l'orbite. Son fils, voilà dans quel état elle le retrouvait. Contre elle, le pauvre corps mourant frissonnait de fièvre et de bonheur. « Embrassez-moi encore, maman! Que c'est bon! Que c'est bon !» Il s'abandonnait dans ses bras, écoutait avec délice les mots tendres qu'elle lui disait et répétait « Vous voilà, je suis sauvé !»« Mon enfant chéri, mon Bruno !»« Maman, maman, oh, j'avais soif de vous voir !»« Je ne suis plus digne pourtant, je suis un misérable !» Le vieux prêtre se penchait vers lui. Ses mains, nouées par les rhumatismes, serraient les mains blanches où les os saillaient. Sa voix cassée disait « mon pauvre petit !»« Vous venez pour moi, monsieur le curé, vous avez fait ce voyage ?»« Mais oui, mon petit enfant, j'ai rendu ton âme bien blanche au jour de ton baptême, et comme elle s'est un peu noircie en route, pauvre petit, je veux recommencer aujourd'hui. » Deux lourdes larmes glissèrent des yeux de Bruno. Il balbutia « Oui, oui !» « Oh, j'ai hâte! Quel chemin j'ai fait! Quel terrible chemin! Je n'en puis plus !» Quelques instants plus tard, Madame Ferrière, laissant son fils seul avec le prêtre, entra dans la pièce voisine qui était le cabinet de Bruno. Floriane se trouvait là. Assise devant le bureau de son mari, les mains appuyées aux tempes, elle tenait ses yeux fixés sur un livre ouvert devant elle. À l'entrée de sa belle-mère, elle se détourna et se leva. Son teint avait l'ardente blancheur accoutumée. Seul, un cerne sous les yeux décelait la fatigue, l'inquiétude. Elle demanda « Comment le trouvez-vous ? » La voix de la mère se brisa en répondant « Très mal !» Elles restèrent un moment silencieuses, se regardant. Madame Ferrière retenait des larmes qui montaient à ses yeux et les rides menues de son visage vieilli s'accentuaient. Floriane gardait son air calme, sans émotion apparente. Mais ses épaules frémissaient. Madame Ferrière dit d'un ton étouffé « Comme vous l'avez fait souffrir ! Je l'ai aimé ! Vous l'avez détaché de tout ce qui était sa vraie vie. Il en meurt. Je vous l'avais dit, Floriane, souvenez-vous, dans le petit salon de la Hermelière, la veille de votre mariage et plus tard à Paris. » « Je me souviens, mais je ne regrette rien. »« Vous ne regrettez pas ?» Une surprise douloureuse s'exprimait dans l'accent de Madame Ferrière. Floriane secoua lentement la tête. « Non, je l'ai voulu à moi, je l'ai eu. À moi toute seule, vous entendez ? Son Dieu, sa famille, son pays, il m'a tout sacrifié pendant des mois. Il vous a délaissé, oublié, il vous a meurtri le cœur. Pour moi ?» Pour moi. Qu'il meure maintenant, vous n'empêcherez pas qu'il m'ait aimé plus que vous, plus que tout. » Sa voix restait basse et tranquille, mais Madame Ferrière savait quelle force tenace et brûlante se cachait sous ce calme. Et les yeux à l'indéfinissable nuance s'éclairaient d'une flamme de joie triomphante qui fit tressaillir la mère. Croyez-vous qu'il nous ait jamais oublié tout à fait ? Non, non, je le sais, j'en suis sûre. On n'oublie pas tout un passé comme celui-là. Un jour, il revient avec tous ses souvenirs, il reprend la mégarée. Floriane, ne voulez-vous pas comprendre ? La jeune femme l'interrompit d'un geste bref. Non, jamais. J'ai adoré Bruno. Cet amour a fait ma joie, il est devenu ma torture depuis qu'il s'éloigne de moi. Mais ne me demandez pas autre chose. Je hais sa religion, sa famille, ses amis. Tout ce qui a été sa vie avant qu'il me connût, tout ce qui est revenu me l'enlever depuis quelque temps sous la forme du souvenir. Je hais tout ce qui n'est pas lui et moi. »
Ma pauvre enfant!
Madame Ferrière considérait avec une pitié immense la jeune femme debout devant elle, avec sa taille souple qui se penchait un peu tandis qu'elle parlait et ses prunelles qui brûlaient de vie ardente. Florian dit froidement « Ne me plaignez pas, j'ai eu ce que je voulais, trop peu de temps, mais je l'ai eu. Tout le reste n'est rien. » Un peu de soleil entrait dans la pièce, s'étendait en coulées lumineuses sur le grand bureau où plus jamais ne travaillerait Bruno, et venait aviver l'or fauve des cheveux de Florian. Madame Ferrière regarda encore la jeune femme, longuement, et soupira. Elle comprenait que l'âme sans élévation, l'âme égoïste et passionnée, resterait inaccessible au repentir et à l'attrait du bien.